Radio Foot International, Marie-Amélie Mott.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Café des Sports. Comme chaque vendredi, vous pouvez nous écouter à la radio ou nous regarder sur le Facebook Live de Radio Foot. On l'attendait depuis des mois, et bien ça y est, c'est le grand soir de la Ligue des Champions, début des huitièmes de finale, retour avec deux affiches alléchantes. Juventus-Turin Olympique Lyonnais pour commencer, Lyon à la poursuite d'un grand exploit européen, victorieux 1-0 à l'aller, face à une Juve championne d'Italie mais qui a perdu sa sérénité défensive. À Radio Foot, on a pas mal de raisons de croire à la qualification lyonnaise, on en parle dans un instant. Autre affiche de la soirée, certainement la plus prestigieuse, Manchester City-Real Madrid, duel d'entraîneurs en perspective entre Pep Guardiola et Zinedine Zidane. Le Français est face à un sacré défi, aller gagner sur le terrain de City après sa défaite de 2-1 au match aller. On parlera aussi de la Ligue Europa en fin d'émission, avant les cartons évidemment. Avec moi dans le Café des Sports, il nous avait beaucoup manqué la semaine dernière. Bonjour Rémi Ngono.
Ah, bonjour, je suis Hervé. J'ai dit tout de suite aux téléspectateurs que quand je ne suis pas là, Xavier Barré Dembélé, il est très fort sur le plateau. Et à peine j'arrive, il a eu à glisser là, devant le portail. Il s'est cogné avec LRFE et maintenant il est à l'hôpital. Donc forfait, je suis seul et LRFE, il a actuellement mal au bras. J'ai éliminé tout le monde. Allez, on peut continuer.
Alors effectivement, on va se passer de Xavier Barré aujourd'hui et c'est Bruno Constant qui est parmi nous. Bonjour Bruno.
Bonjour Marie-Amélie et je suis heureux d'entendre que Rémi, il n'y a pas d'adversaire pour lui. C'est un petit peu comme un Real Madrid arrogant qui pense qu'il est déjà qualifié, c'est ça?
Ah non. On n'a pas besoin de nous qualifier. Nous, c'est 13 Ligue des Champions si on vend donne aux autres.
On verra ça tout à l'heure. Ouais, le réfet est là, évidemment. Bonjour Alejandro Valente.
Bonjour Marie-Amélie. Et je suis vos commentaires sur Facebook Live. Donc, si vous avez des choses à dire dans l'émission, vous me faites signe et on le fera.
Allez, le Café des Sports, c'est parti.
Ça va partir dans quelques instants pour ce huitième de finale aller de la Ligue des Champions avec l'Olympique Lyonnais qui va jouer évidemment son va-tout ce soir. Et l'ouverture du score 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Mais oui, mesdames et messieurs, les Lyonnais mènent pour l'instant face à la Vieille Dame. Terminé! L'Olympique Lyonnais qui l'emporte 1-0 au Groupama Stadium. C'est la surprise.
Musique m'avait beaucoup manqué. Vous aussi, messieurs, vous êtes contents de retrouver la Ligue des Champions?
J'en ai mis un terme à mes vacances justement pour le retour de la Ligue des Champions, le retour des grandes affiches. C'est ça qui nous intéresse.
Rémi?
Bien sûr, la musique, mais ça va sonner creux dans le vide. Ouais. Il y aura ça qui va un peu manquer.
Alors, on a quand même l'embarras du choix ce soir. Donc, Juventus-Turin Olympique Lyonnais et Manchester City-Real Madrid. Coup d'envoi des deux rencontres à 19h en temps universel.
Mais c'est quelle programmation ça? Mais qui a fait ça? Mais c'est pas possible, on ne peut pas mettre. Comment je vais faire? Hein? Ouais. Il me faut avoir quatre yeux pour regarder deux affiches de cette envergure-là? Mais c'est pas possible, mais chez ce genre de l'UEFA, ça commence à. Je sais pas.
Enfin, c'est toujours comme ça, les huitièmes de finale quand même.
Vous ne pouvez pas mettre des affiches comme ça! Et encore que ça, c'est la saison Covid, il fallait au moins se dire que longue soirée, et comme ça, j'allais m'installer. Le temps d'abord de sortir le champagne aux frais après avoir fini de boire là pour la victoire du Real. Je m'en vais par la suite. Non. Contre Barça City, vous savez très bien. Contre Barça
City. Alors, on va commencer par le match qui se déroule à Turin. Je suis désolée, Rémi. Donc, sur le papier, malgré la défaite 1-0 au match aller, c'est clair que la Juve est favorite. Championne d'Italie pour la 9e fois d'affilée, Cristiano Ronaldo dans son effectif tout simplement, et cette stat qui fait mal au football français, jamais un club de notre pays n'a réussi à éliminer la Vieille Dame en match à élimination directe. Mais donc, comme je vous le disais en introduction, à Radio Foot on a trouvé pas mal de raisons de croire à la qualif des Lyonnais. La première, c'est tout simplement que les équipes qui ont gagné 1-0 à domicile lors du match aller ont 60% de chances de se qualifier.
Oui, c'est un avantage qui est non négligeable, car on sait que si Lyon marque un but, et c'est pas impossible vu la fébrilité défensive de la Juventus, ce sera très compliqué pour la Juve, parce qu'il faudra qu'elle réussisse 3 buts pour pouvoir se qualifier. Donc Lyon a une belle carte à jouer, c'est pas fait. Mais je pense qu'effectivement, ils peuvent être relativement optimistes.
Alors Rémi évoquait tout à l'heure l'absence de public ce soir. Est-ce que les joueurs maintenant se sont habitués à jouer dans des stades vides, vous pensez ?
Malheureusement peut-être, mais c'est surtout que sur les matchs de Ligue des Champions et de Coupe d'Europe, on sait que sur les matchs aller-retour, il y a forcément un avantage pour l'équipe qui est à domicile, qui reçoit au match retour et qui peut se voir aidée par l'appui de son public. On a vu notamment lors de la reprise des différents championnats qu'il y avait un taux de succès à domicile anormalement bas, avec des équipes qui profitaient pas justement de l'appui de ce public. Mais petit à petit dans les compétitions, on s'est aperçu aussi que les grandes équipes finissaient par gagner à domicile parce qu'elles sont plus fortes. Et là, malgré tout, la Juve, même s'il y a beaucoup de signes extérieurs qui montrent que la Juve n'est pas une grande Juve cette saison, même si elle est championne d'Italie, qu'elle prend beaucoup de buts. Moi, cette Juve-là me fait beaucoup penser au Chelsea de Sarri, qui était très laborieux, qui avait plutôt fait une bonne saison, mais qui n'arrivait pas à convaincre, qui était laborieux dans le jeu. Ça reste un grand Europe. C'est une équipe qui a été deux fois en finale Ligue des Champions sur les cinq dernières années. Donc, c'est pas rien. C'est une équipe qui compte dans ses rangs Cristiano Ronaldo. Donc, il y a beaucoup d'arguments pour faire plier ce Lyon, même si moi, j'y crois aussi, pour les Lyonnais, il y a vraiment une carte à jouer, à faire douter cette équipe, et notamment cette défense turinoise.
Ouais, on va venir à la défense dans un instant. L'un des atouts de l'OL ce soir, c'est son entraîneur, Rudy Garcia. Il connaît très bien le championnat italien, parce qu'il a entraîné la Roma de 2013 à 2016. Il a été sacré deux fois vice-champion d'Italie, tout de même. Contre la Juve, le bilan est mitigé, 2 victoires, 1-0, 3 défaites.
Oui, parce que Garcia a cette réputation de pas réussir contre les grandes équipes, et c'était pas seulement le cas en Italie, c'était notamment le cas en France. Alors, on a vu que Garcia maîtrisait bien l'italien en conférence de presse. Je pense que c'est un clin d'œil aussi de montrer qu'il était passé par la Roma, qu'il avait entraîné les grands clubs. Après, je sais pas si on peut dire que Garcia est l'atout ou l'un des atouts de l'Olympique Lyonnais.
Non, vous n'êtes pas d'accord.
J'ai du mal à... Je trouve qu'on a un Lyon qui s'est quand même assez décomposé, notamment en championnat, en Ligue 1. Ils ont fini 7e ou 8e. Ils sont à l'agonie. A priori, sauf cataclysme, je pense pas qu'ils remporteront la Ligue des Champions, sait-on jamais. Mais ils se qualifieront pas pour une Coupe d'Europe la saison prochaine, donc c'est quand même une saison très laborieuse pour l'Olympique Lyonnais. Mais il y a ce match aller, même s'il était il y a 5 mois et demi, ils avaient réussi une performance plutôt intéressante, ils avaient résisté à la Juve, et notamment, ce qui m'avait plu, moi, c'est la première période où ils avaient été très agressifs dans le jeu, ils avaient été chercher cette équipe turinoise très très haut sur le terrain, et on sait que la Juve, et notamment la Juve de Sarri, les équipes de Sarri aiment pas être agressées comme ça sur le terrain. Donc il y a peut-être une carte à jouer, et puis la grande inconnue, mais ça personne ne peut y répondre, c'est le degré de forme des deux équipes, entre une équipe qui a beaucoup joué et une équipe qui a quasiment pas joué, un seul match de compétition officielle en 5 mois et demi, là c'est une inconnue totale, on sait pas ce qui peut se passer.
Alors la semaine dernière, Lyon a perdu la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG au tir au but. Ils ont quand même pu tirer quelques enseignements positifs de la rencontre, à commencer par le milieu de terrain qui a souvent pris le dessus sur les joueurs parisiens. Bruno Guimaraes a encore impressionné et Rudy Garcia hier s'est montré très satisfait de son milieu brésilien en conférence de presse.
Bruno n'est pas avec nous depuis longtemps. Il n'a pas joué beaucoup de matchs avec nous, mais c'est un joueur de football comme je les aime. C'est un joueur capable de bien orienter le jeu. C'est un joueur qui court, qui défend bien, qui est très utile au niveau du milieu du terrain. Voilà, c'est un joueur collectif déjà dans l'esprit. Voilà, ce qui fait qu'il est très précieux dans l'expression offensive de notre jeu.
Très précieux, Bruno Guimaraes, même indispensable à Lyon aujourd'hui.
Oui, je pense qu'il a fait beaucoup de bien parce qu'il faut penser, on dit la saison des Lyons est décevante, mais c'était surtout il entame des saisons assez catastrophiques depuis l'arrivée de Rudy Garcia, même si on peut avoir des réserves sur son travail et avec l'arrivée des joueurs comme Bruno Guimaraes. Je pense que Lyon a fait des progrès, que cette étape Covid lui a fait du bien puisqu'elle lui a permis de récupérer des joueurs blessés. Et je pense que Lyon m'a laissé une très bonne impression contre le PSG. Ils ont été bien. Je pense qu'ils ont fait ce match en pensant déjà à la Juventus, donc un match où il fallait surtout pas prendre de but. Et avec ce résultat, ils se réqualifiaient à l'issue du match de ce soir. Donc je pense que oui, qu'il y a des très bons signaux de la part des Lyonnais.
Rémi, Lyon vous a impressionné aussi la semaine dernière contre le PSG ? Vous a fait peur ?
Lyon, ça a peut-être impressionné, mais les matchs ne se ressemblent pas. Et au-delà de ça aussi, il faut savoir que ce PSG, lui également, tantôt, il est sur courant alternatif. Mais s'il y a quelque chose, comme on a dit, c'est quand même que Lyon a une assez bonne attaque, même si on veut parler des défenses qui flotte aussi, mais il faut quand même parler d'une bonne attaque avec bien évidemment des gens qui sont revenus des blessures et particulièrement sa grande star, et puis sans pour autant oublier que...
Mais ils n'ont pas marqué la semaine dernière face au PSG.
Oui, ils n'ont pas marqué, mais il faut savoir aussi que s'ils n'ont pas marqué, ils ont quand même eu quelques occasions. Bon, maintenant face à la Juve, est-ce que Lyon est véritablement un vrai Lyon? Je ne pense pas. C'est vrai que je ne vois pas la Juve en super forme, mais en même temps, quand on voit l'équipe de Lyon sur l'ensemble des matchs, ce n'est pas toujours très suffisant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils peuvent être là et puis ils descendent là. Donc pour moi, je ne peux pas juger par rapport à ça. Et aussi, il faut se dire que la Juve, qu'on est en train de dire très fragile, on peut se dire quand même aussi que la Juve a eu beaucoup plus de matchs que Lyon. Ce n'est pas un avantage. Bien au contraire, on a pu voir comment est-ce que la Juve s'est liquéfiée au cours des matchs pour montrer justement qu'ils tiraient la langue. Ils avaient des problèmes de récupération, ils avaient des problèmes au niveau de l'intensité, ils ont laissé beaucoup d'énergie.
Et d'ailleurs, 14 matchs, on a dû
reposer Cristiano Ronaldo. Donc c'est pour ça que je dis que peut-être que Lyon a beaucoup même emmagasiné de l'énergie de telle sorte que ça risque d'être très difficile pour l'équipe de Sarri.
Oui, côté Juve, c'est ce que vous disiez, Rémi, la défense a plutôt pris l'eau ces dernières semaines. 17 buts encaissés lors des 8 derniers matchs de Serie A. C'est beaucoup pour un champion d'Italie quand même.
C'est beaucoup pour un champion d'Italie et c'est beaucoup pour la Juve qui traditionnellement était réputée pour sa défense, l'une des meilleures défenses d'Europe. Après, il faut bien faire la différence entre le club de la Juve, son histoire et l'entraîneur qui est sur le banc, Maurizio Sarri, qui est un entraîneur très offensif, qui fait jouer ses équipes avec beaucoup de possession et très haute sur le terrain. Il veut que ses joueurs défendent en avançant, ce qui n'est pas du tout dans la culture de la Juve. Il y a aussi De Ligt qui est arrivé en début de saison, qui a eu un certain temps d'adaptation, ça a été compliqué. Même Bellucci a dû se décaler sur le côté gauche de la défense pour laisser De Ligt à droite. Voilà, tout ça, c'est les ajustements. Mais encore une fois, moi, je reviens aux équipes de Sarri, qui a eu une excellente période au Napoli et qui, depuis, je trouve, a du mal à confirmer dans le jeu. Il a du mal vraiment à amener quelque chose. On a du mal à voir la patte Sarri dans le jeu. Et c'est laborieux.
Après une saison entière, pratiquement.
Mais après, ils sont champions d'Italie. Ça, faut le reconnaître. Lyon, la grosse différence, c'est que Lyon a fini 7e de la Ligue 1, qui est un championnat inférieur à la Serie A, alors que la Juve était championne. Avec des équipes comme la Lazio, comme l'Inter, comme l'Atalanta qui ont été brillantes.
Mais on sait aujourd'hui que les patrons de la Juventus ne sont pas du tout satisfaits du bilan de Sarri et que pratiquement, il ne fait aucun doute qu'il sera remercié à la fin de la saison. La seule chance, ce serait de gagner la Ligue des Champions et encore. Donc aujourd'hui, quand même, l'ambiance n'est pas excellente pour attaquer une partie aussi importante de la saison.
Ça serait un cataclysme.
Ça peut déstabiliser les joueurs.
C'est RFE. C'est vous, avec Xavier Barré, qui étiez en train de me dire ici que Sarri était un bon entraîneur. Moi, je vous ai dit, parce que...
Mais c'est pas un bon entraîneur. C'est un bon entraîneur.
Peut-être pas pour les Juifs.
Non,
peut-être
pas pour les Juifs. Il n'y a pas de style de jeu. Moi, je dis, il n'y a pas de style de jeu. Et au-delà de ça, parce que même l'effectif, on va se dire aujourd'hui que, ah oui, Chiellini, il s'est beaucoup blessé et ça a manqué. Mais quand même, dans cette défense-là, il aurait pu réajuster. Parce que la Juve, qui parfois joue avec 3 défenseurs, lui, quand il arrive, il le dit, donc, ce n'est plus comme ça là. Maintenant, quand on essaie de voir la Juve, qui déjà, la saison dernière avec 30 buts, mais cette saison, surtout les matchs que la Juve perd, c'est-à-dire que quand vous perdez, alors que vous devez jouer une Ligue des Champions, vous perdez contre Udinese, qui est 16e, vous prenez 2 buts, vous prenez 4 buts comme ça là contre Milan, et puis on se rend compte que vous perdez 18 points parce que vous avez marqué un but et vous n'êtes pas capable de maintenir un score. Parce que l'entraîneur qui est au banc, quand les joueurs le regardent, il demande tantôt aux joueurs de monter. Quand ils veulent monter, il le fait comme ça, descendez. Mais finalement, il communique mal.
Vous savez aussi que quand Cristiano Ronaldo est là et il est toujours là, Sarri ne peut pas y toucher. Et quand Cristiano Ronaldo est là et que la Juve doit défendre avec un joueur en moins, parce que Cristiano Ronaldo ne fait pas l'effort.
Ah non. Bien sûr. Non, s'il te plaît. Tu ne peux pas dire que Cristiano Ronaldo ne défend pas, parce qu'il est le premier défenseur
sur les coups de pied déjà, défensif. Première des choses, lorsqu'il faut faire pression, c'est lui qui appelle toujours les autres. Vous savez très bien que la meilleure façon de défendre, c'est d'attaquer. Donc, il demande toujours à ses coéquipiers de monter. Et lorsque vous essayez de regarder la saison de Cristiano Ronaldo, s'il ne marquait pas ses 31 buts, ses 6 passes décisives, où serait la Juve aujourd'hui? Retenez quand même que c'est Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur buteur de 2020
avec
en Europe.
De pénalty.
Non, attendez. Simon Immobilier, c'est 14 pénalty, s'il te plaît.
La faiblesse de la Juve, c'est
Cristiano
pas Ronaldo.
Ronaldo, c'est 23 buts marqués en 2020.
Ronaldo, on le sait, c'est pas la faiblesse de la Juve aujourd'hui, Ronaldo. La faiblesse, c'est Sarri, mais en même temps, c'est la responsabilité des dirigeants de la Juve. Quand on va chercher Maurizio Sarri, c'est qu'on veut changer la culture du jeu de la Juve. C'est qu'on veut un jeu plus attractif. C'est un peu d'ailleurs l'image de ce que font les dirigeants depuis quelques années, avec un nouveau maillot, on casse les codes, on veut changer de logo, on a un nouveau stade, on passe dans une ère totalement moderne à la Juve. Donc on veut un entraîneur offensif. Mais ça peut pas se faire en une saison. Donc soit les dirigeants de la Juve assument leur responsabilité en se disant on a fait une première saison avec Sarri, on savait que ça allait être compliqué et en même temps ils sont champions d'Italie et que malgré tout ils restent favoris face à Lyon en huitième de finale et à ce moment-là on lui donne une deuxième saison pour poursuivre sa transformation de la Juve et voir. Mais pour moi si on vire Sarri maintenant, même s'il se fait éliminer par Lyon, ben ça veut dire qu'on a fait une erreur dès le début, il ne fallait pas prendre Sarri comme entraîneur, tout simplement.
On a un auditeur sur Facebook Live, Ruben Deo, qui dit « Si même Ramingono ne prend pas parti pour la Juve, c'est qu'elle a du souci à se faire. »
Ah non, mais j'ai dit « Je ne prends pas parti pour Sarri. » Mais j'ai juste dit, pour l'instant, l'effectif qu'il pouvait avoir, il devrait bien l'exploiter.
Ah oui,
c'est vrai quand même que...
Il
peut dire... C'est vrai que quand on regarde... Vous avez parlé de l'identité de la Juve. Quand vous regardez, par exemple, que ce 2017-2018-là, il y a quand même Buffon avant de venir à Paris, qui vous fait 690 minutes sans prendre de but. Et on se rend compte aujourd'hui que la Juve prend en moyenne un but et demi par match. Et c'est pour ça que je dis, et même quand vous dites sur le plan offensif, la Juve ne marque pas autant que vous le croyez. Donc, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la Juve, quand on se retrouve sans des ailiers de débordement qui peuvent centrer, eh bien, on repositionne Cristiano Ronaldo, lui, au centre. Mais finalement, il attend des centres. Les centres n'arrivent jamais. Parce que les autres qui veulent centrer, ils centrent toujours au quatrième poteau.
Ça marche pas comme ça.
L'une des interrogations ce soir aussi, c'est la présence ou non de Paulo Dybala, le compère de.
Il est dans le
c'est
groupe.
Sûr, tout ça.
Alors, il est dans le groupe, mais il pourra, enfin, même s'il est aligné, il pourra pas jouer à son meilleur niveau, puisqu'il revient de blessure.
Absolument. Il sera probablement sur le banc, il entrera en cours de jeu, mais je pense que c'est Higuain qui sera titularisé en attaque.
Mais c'est une grosse perte parce que Dybala, on parle beaucoup de Ronaldo, mais le meilleur joueur de la Juve cette saison, c'est Dybala. C'est lui.
Et le meilleur, le meilleur joueur de la saison en Italie, c'est Dybala.
C'est lui qui amène l'étincelle. C'est lui qui fait basculer les matchs.
Il a été élu. Arrêtez. Je vais vous dire ça. Arrêtez. Paulo Dybala, cette saison, c'est 3 passes décisives.
Mais il n'y a pas que les stades.
C'est 3 passes décisives. Et
il vient d'être élu meilleur joueur de la saison.
Non, mais attendez, il a eu. À être élu 3 fois meilleur joueur du match. Cristiano Ronaldo a été élu 10 fois meilleur joueur du match.
Ça n'a rien à voir.
Et vous avez, mais attendez, laissez-moi, vous allez vous baser sur quelle statistique? Pour un joueur qui marque 31 buts et il fait 6 passes décisives.
Mais
attendez,
laissez-nous
ça. Paulo Dybala, c'est 25 buts. Mais quel déclic?
Le déclic, c'est basculer les matchs sur une action, sur un dribble, sur une passe.
C'est toujours comme ça. Pour l'ensemble des dribbles, d'ailleurs, que Paulo Dybala ne vient qu'en 6e position. Comment est-ce qu'on peut m'expliquer ça?
Que
un joueur
stats,
qui a été élu pendant toute la saison.
Rémi, il faut sortir des stats.
Mais attendez, il a été élu. Je t'ai dit une chose, hein. Pendant une saison, vous êtes élu 3 fois homme du match. L'autre est élu 10 fois homme du match.
Bah c'est
vous. Et vous réussissez à être meilleur joueur du même championnat.
Qui élit le joueur du match? Qui élit le joueur du match?
Pourquoi vous n'aimez pas
qui élit le joueur du match?
Dieu du ciel.
Qui élit le joueur du match? On ne sait pas. Qui élit? C'est les supporters? C'est ceux qui regardent le match à la télévision? C'est qui? On ne sait pas. Là, tout le monde reconnaît que Dybala était le meilleur joueur de la Juve et que c'est en plus le meilleur joueur du championnat.
S'il te plaît. Je t'ai dit, je ne reconnais pas.
Tu aurais dû voter.
De toutes les façons, c'est l'un des joueurs, quand on me dit passeur, pour une saison, peut-être que Yann Sterling qui ne fait pas assez de passes parce qu'il en a pour une, mais Paulo Dybala, toute une saison, 3 passes décisives.
Il n'y a pas que les stats.
Tiens.
Il n'y a pas que les stats. Allez, tout le monde le reconnaît.
Un proverbe, Rémi, les gens demandent.
Bon, on y va.
J'attendais le proverbe. Il peut arriver un peu plus tard. Il est temps de passer à l'autre affiche. Parce qu'on pourrait passer des heures à parler de Cristiano Ronaldo, évidemment. Oui. Mais il est de Paolo Dybala.
C'est justement, comme vous vouliez le proverbe, quand on veut comparer Cristiano Ronaldo à Paolo Dybala et aux autres joueurs en Serie A et dans le monde. Attendez, on ne les compare pas. Paolo Dybala peut faire des petites virgules comme ça et tout. Mais avec Cristiano Ronaldo, il y a un proverbe africain qui dit « Ce n'est pas parce que le bouc fait des crottes qu'on va le comparer à un pharmacien.
» Bon, allez, on passe à Manchester City.
Donc on va dire qu'il fait aussi des pilules, des vaches et tout, voilà, tu comprends.
De Tavendi, il lui a servi le petit déjoli et à la conclusion, Monsieur Isco, Kevin De Bruyne, offrande véritable sur la tête de Gabriel Jesus. Penalty. Oh, tout peut changer en quelques secondes. Pep Guardiola se rappelle au bon souvenir de Bernabeu en venant s'imposer ici dans ce 8ème de finale aller de Champions League.
Et oui, en mars, Manchester City était allé frapper un grand coup à Santiago Bernabéu, victoire 2-1. Les Citizens ont 92% de chances de se qualifier, mais ça n'effraie pas du tout Zinedine Zidane.
Ah ben, de toute façon, la situation, on la connaît, elle est claire. C'est vrai qu'il y a eu ce match aller, on a un désavantage, mais bon, un désavantage qu'on sait, qu'on connaît. On connaît très bien la situation, on sait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on doit faire sur le terrain, et on va se préparer pour justement faire un grand match, parce qu'on va devoir faire un grand match. On va jouer contre une belle équipe qui a aussi ses armes, et bon voilà, c'est comme je l'ai dit depuis le début, en fait, c'est de voir un beau match et essayer de faire une grande finale et passer cette phase finale.
Alors, ce qui nous vient forcément en tête avec ce City Real, c'est l'opposition entre deux des meilleurs entraîneurs du monde, Pep Guardiola et Zinedine Zidane. Qui a le plus à perdre ce soir?
Je pense que Guardiola, quand même, parce que ça fait longtemps que Guardiola court après la Ligue des Champions. C'est un peu sa quête impossible. Et donc, un nouvel échec serait quand même très embêtant pour lui. Alors que Zidane, qui a déjà connu d'autres succès et qui vient de remporter la Liga, a, disons, moins la pression et peut, je pense, aborder ses matchs de manière plus sereine.
Oui, surtout qu'il a perdu le match aller à domicile à Bernabeu, et que si on nous avait dit il y a 5 mois que le Real aurait une chance au match retour, Ramos expulsé, donc la victoire à l'aller à l'extérieur pour City et un retour à domicile, sauf qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé en 5 mois. Que City va jouer, même si le public de Manchester City est pas le plus réputé en termes d'atmosphère, ils vont jouer sans leur public, donc ça va, on va dire, rapprocher un peu les deux équipes. Que City a fini la saison de Première Ligue avec 9 défaites, c'est énorme, qu'il y a beaucoup de doutes sur cette équipe, qui a perdu la demi-finale de Cup face à Arsenal, qui était classée 8ème du championnat. Donc il y a comme ça beaucoup de petits doutes qui entourent City. Et dans le même sens, de l'autre côté, le Real Madrid s'est affirmé, s'est revigoré avec Zidane, champion d'Espagne en doublant le Barça dans la dernière ligne droite. Et une équipe surtout qui nous rappelle qu'elle s'appuie sur un pragmatisme extraordinaire. Et moi, c'est ce qui différencie les deux entraîneurs, c'est que d'un côté, on a le pragmatique Zidane, qui affiche pas toujours un jeu extraordinaire, qui nous séduit pas toujours par son jeu, mais qui gagne, et qui gagne les trophées importants. Et de l'autre, on a Pep Guardiola, qui est un peu l'esthète, qui veut gagner, mais uniquement par le beau jeu, et qui est prêt à mourir avec ses idées, et qui souvent, à City, en tout cas en Ligue des Champions, est mort avec ses idées de beau jeu. Donc voilà, ça va être un duel fantastique. Et pour moi, on n'est pas à 50-50 parce qu'il y a toujours un avantage City avec cette victoire à l'aller. Mais je trouve qu'on est plus près d'un 49-51 qu'après le match aller à Bernabeu.
Alors donc City reçoit ce soir et Bruno, tu l'évoquais, ils sont quand même particulièrement performants chez eux ces derniers temps, en effet.
Oui, on ne se rend pas compte qu'il n'y a pas de public à l'Etihad Stadium parce qu'à chaque fois qu'ils jouent à domicile, ils cartonnent. Je crois que depuis la reprise Covid, ils sont sur un score de 24 buts marqués pour un seul encaissé, qui est des victoires. Donc c'est évidemment un avantage conséquent de jouer à domicile pour City. Et à un moment donné, il y a eu un doute. Est-ce que le Real allait pouvoir se déplacer en Angleterre? Et finalement, je pense qu'un des atouts de Guardiola sera quand même de jouer dans son stade.
Oui, mais ça marche plus en Première Ligue qu'en Ligue des Champions. Parce qu'en Ligue des Champions, il faut se souvenir qu'ils s'étaient inclinés face à Liverpool, par exemple, en quart de finale. Ils avaient laissé échapper la qualification face à Tottenham, également à domicile. La première année de Guardiola contre Monaco, ils s'étaient imposés à l'aller 5-3 contre Monaco. Ils avaient totalement perdu le fil sur le match retour. C'est une équipe qui reste fragile psychologiquement, et notamment quand elle encaisse le premier but. Et là, le danger...
Pourquoi elle reste fragile psychologiquement ?
Parce que défensivement, ils n'ont pas toujours trouvé la clé. Il manque depuis le départ de Kompany, il manque un défenseur aux côtés de Laporte. Que le jeu prôné par Guardiola est tellement offensif qu'il n'est tellement pas dans le calcul que la Ligue des Champions, c'est aussi un peu de calcul. Savoir gérer les temps forts, les temps faibles, surtout ne pas encaisser de buts. Et cette équipe de City encaisse beaucoup de buts. Et à un moment donné, en Ligue des Champions, ça coûte très cher.
Mais ils en ont encaissé seulement 4 en phase de poule et ils ont fini avec la deuxième meilleure défense de Première Ligue quand même.
Ouais, mais phase de poule, alors en championnat, ils sont quand même nettement au-dessus avec Liverpool, ils étaient le champion sortant, et en phase de poule, on sait que les phases de poule comptent un peu moins. Je me souviens plus des adversaires, mais il y a pas de gros cadors avec eux dans ce jeu. Il y avait l'Atalanta peut-être dans la phase de poule.
Oui.
Qui est passé avec eux d'ailleurs, mais il y avait pas des foudres de guerre quoi, voilà.
Shakhtar Donetsk qui est
Mais à chaque fois qu'ils sont bousculés, et moi je reprends les derniers tours contre Monaco, contre Liverpool et contre Tottenham, ils se sont fait bousculer défensivement. Ils ont craqué à chaque fois, aussi bien défensivement et psychologiquement. Donc, face à un Real qui a beaucoup plus d'expérience et l'expérience des victoires avec Zidane, je serais très méfiant du côté de City et c'est vraiment un tout petit avantage qu'ils ont avant ce match retour.
Alors, on parle de la défense de City, mais au Real, c'est plutôt devant qu'on a un peu plus de mal. Karim Benzema ne peut pas tout faire tout seul, Rémi.
Il ne peut pas tout faire, mais il fait quand même beaucoup. Parce que on attendait la méga star Eden Hazard, qui malheureusement ne marche pas. Il est presque devenu...
Qui a été beaucoup blessé.
Oui, il est l'adjoint à l'infirmier actuellement. Il est l'adjoint au médecin. Parce que c'est là-bas où il a trouvé la place de titulaire. Donc c'est un peu compliqué par rapport au jeu offensif. Mais... Il faut quand même se dire que Karim Benzema aujourd'hui a connu une grosse progression. Quand on voit 2017, c'est quand même, il est impliqué uniquement sur 19 buts. Et on voit l'année dernière, il est impliqué sur 30 buts en 52 matchs. Et cette année, il a explosé. Donc, on peut se dire que c'est un Karim Benzema qui sert à tout parce qu'en même temps, il est sur le flanc de l'attaque, mais aussi il joue le lien avec le milieu de terrain. Et puis, le Real a quand même aussi des solutions de rechange au niveau du banc avec Asensio qui est revenu. Et le Real peut avoir aussi des possibilités au niveau des couloirs. Parce que justement, quand vous avez de très très bons dribbleurs, comme par exemple le jeune Vinicius, ou encore lorsque vous avez des gens qui temporisent le jeu et peuvent le créer comme Isco, ça peut être un problème pour City qui aime contrôler le jeu au milieu du terrain. Donc si jamais Zinedine Zidane essaye de renforcer son milieu de terrain aujourd'hui en faisant que Kevin De Bruyne ne puisse pas avoir un certain impact. Il faut quand même se dire que Kevin De Bruyne est impliqué sur 31 buts en 33 matchs, donc 20 passes décisives. Alors,
15 buts et 23 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues.
Voilà, donc c'est comme ça. Donc rien que de l'autre côté, vous voyez, il y a 20 passes décisives, c'est énorme. Donc si on peut déjà le cadenasser, ce serait une très très bonne chose. Mais si on le laisse jouer, pour qu'il puisse ravitailler à la fois Riyad Mahrez, qui est un bon dribbleur, et aussi Sterling, qui cette fois-ci quand même est le meilleur buteur de l'équipe, parce qu'il est quand même à 20 buts. Alors là, ça risque d'être difficile. Et d'ailleurs, la défaite du Real vient de l'entrée de Sterling, parce que il était donné blessé. Et du coup, c'est comme si Pep Guardiola avait surpris Zinedine Zidane, parce que c'est quand il entre
que subitement, le match va basculer.
Ouais, donc, je crois que... Il a aussi surpris en mettant Bernardo Silva en pointe. Ça, c'est une énorme surprise en laissant Agüero sur le banc. Agüero est blessé, donc il sera absent au match retour. Mm-hmm. Moi, pour moi, sur le Real, on en parlait avant, en arrivant à l'émission. Moi, j'avais des craintes pour City parce que le Real, c'est un habitué de ses rendez-vous. Même avec un désavantage, même s'il doit marquer deux buts là-bas et gagner par deux buts d'écart, ils sont capables de le faire. Ils sont capables de le faire. Le seul point noir, il est énorme, c'est l'absence de Sergio Ramos. Suspendu, enfin expulsé au match aller. Et quand on voit l'importance de Ramos sur la fin de saison du Real, il a marqué 6 buts, c'est le deuxième meilleur buteur, je crois, de l'équipe cette saison. Ouais. Il a un poids psychologique sur cette défense et sur cette équipe. C'est vraiment véritable leader.
Sur les 6 derniers matchs qu'il a ratés en Ligue des Champions, le Real a perdu 5 fois.
5 fois, bah, ouais. Voilà. Et notamment des matchs importants, la remontée de la Juve, quasi remontée de la Juve à Bernabéu, enfin des matchs très importants. Donc là, c'est un coup dur pour le Real et ça serait une fragilité, évidemment. Parce que City veut marquer.
L'année dernière, contre Ajax.
Contre l'Ajax, il était suspendu parce qu'il avait pris un jaune volontairement purger son match de suspension.
En tout cas, Marie-Amélie, si les auditeurs qui nous suivent sur Facebook sont partagés sur le match Lyon-Juventus, il y a une grande majorité pour dire que le Real va gagner ce soir. Ah, enfin,
c'est étonnant hein, quand même hein, de croire à la victoire du Real à l'extérieur, à City.
Oh, c'est parce que c'est Zizou. Ouais. Qui va vouloir avoir le ballon ce soir?
Bonne question. J'ai du mal à croire que Guardiola le délaisse.
C'est le City, bien sûr.
Ouais. Mais et en même temps, Zidane est capable de surprise aussi. C'est quelqu'un de pragmatique, mais il sait qu'il doit marquer. Donc pour marquer, c'est aller faire déjouer cette défense de City qui est pas très bonne, qui est assez fragile. Donc il peut aussi presser très haut, jouer très haut, essayer de marquer très vite et faire. Moi, je suis sûr que si le Real marque le premier but, ils se qualifieront. Parce que City va douter, va perdre son football et on l'a déjà vu faire ça.
Ils sont très à l'aise dans ces genres de situations parce qu'ils doivent, ils vont laisser des espaces et Kevin De Bruyne, qui est un énorme forme, je pense que.
Non, mais
c'est le danger, il y a des dangers.
C'est pour ça que je vous ai dit, le Real a des possibilités au milieu de terrain. C'est-à-dire que si Zizou aligne à la voie et Valverde et Casemiro, ils peuvent bien bouffer le milieu de terrain de City. Et tout peut se jouer là. Moi, je dis, pour l'instant, City, c'est d'abord le milieu de terrain. Parce que si on n'alimente pas les deux fléchettes qui sont dans les couloirs, ce sera très difficile pour City. Et là, Guardiola, chaque fois, vous avez vu comment est-ce qu'il ne parvient pas souvent à tenir sur le banc lorsqu'il est étouffé au niveau du milieu de terrain. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai l'impression que Isco va débuter ce match pour renforcer ce milieu de terrain-là. Et si jamais City est appelé à vouloir récupérer le ballon et à vouloir se projeter, je crois que ce serait un avantage énorme pour le Real.
Bruno Constant, je vous sens dubitatif.
Non, mais c'est compliqué parce que c'est deux grands entraîneurs tactiques. On a vu que Guardiola est capable de nous réserver des surprises au match aller. Il peut peut-être en réserver une autre sur ce match retour. On parle beaucoup de Gabriel Jesus en pointe. Je suis pas persuadé qu'il débute en pointe. On a Mahrez, on a Sterling. Sterling peut débuter en pointe. Il peut aussi faire jouer De Bruyne en pointe. Il l'a déjà fait. Et Rémi, tu parlais de comment cadenasser De Bruyne et si cadenasse De Bruyne, il prive le City de solution. Mais en fait, non, parce que à City, le danger vient de partout. Les latéraux montent énormément. Au milieu de terrain, on a Bernardo Silva, on a David Silva, on a beaucoup de monde. Donc c'est une équipe où le danger peut venir de partout, mais le danger vient aussi proprement de sa propre équipe, de sa défense, encore une fois. Et moi, j'ai vraiment des doutes sur cette défense de City. Et voilà, je pense que le Real a un coup énorme à jouer. Et je pense que Zidane est capable de faire ce genre de coup, d'être patient, de marquer le premier but et d'être patient ensuite, de défendre.
Non, c'est vrai que
tu as bien tenu plutôt la défense de City.
Oui, mais on était dans deux formes différentes. City était en pleine forme et le Real avait beaucoup de mal à l'époque.
Parce que pourquoi est-ce que je parle de par exemple, Kevin De Bruyne?
Non, mais je suis d'accord.
Basé sur ça.
Bien sûr.
Parce que le deuxième passeur, quand même. C'est Riyad Mahrez, je crois, avec 9 passes décisives en première ligue. Donc, à partir de l'instant où vous pouvez cibler, vous pouvez bien me parler de ces latéraux qui vont monter également. N'oubliez pas que quand même, le Real a de très bons latéraux, dont Mendy, par exemple, ou encore Carvajal. Donc, moi, je me dis également que Sterling défendre devant Carvajal, ça peut être énorme et ça peut être difficile. Donc moi je crois plutôt que Pep va plutôt chercher à faire jouer aussi quelqu'un en faux 10, comme il faisait jouer, en faux 9, comme le faisait avec Messi. Là, ouais. Parce que justement, il va se dire, est-ce que je mise sur la nervosité de la jeune défense centrale du Real pour les mettre en difficulté? Moi, je crois que c'est là où il va miser. Mais par rapport à Zizou, qui a un peu plus d'expérience aujourd'hui, par rapport à Guardiola en Ligue des Champions, elle refait, tu conviendras avec moi, parce que Pep Guardiola, c'est toujours que « Oh, cette année, on va gagner! Oh, cette année, je veux dire gagner! Maintenant, on veut gagner! Oh, cette fois-ci, on part déjà gagner !» Il y a un proverbe africain qui dit que ce n'est pas en disant « mon Dieu, que le marabout ira au paradis
!» Bon, l'atout numéro un côté Real, c'est Benzema. Côté City, c'est De Bruyne. Pour vous, qui est le plus impressionnant, qui a réalisé la meilleure saison?
Entre qui?
C'est dur.
De Bruyne et Benzema.
Ah non, 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 il n'y a pas match, c'est Benzema.
C'est comme choisir.
C'est Benzema,
entre
c'est
Messi.
Benzema.
Non,
première des choses.
Et Rémi, regarde pas le foot anglais.
Attendez, soyons sérieux. Pep Guardiola lui-même vous a dit que s'il fallait comparer entre des joueurs avec Messi, que Benzema en faisait partie. Lorsque vous essayez de regarder aujourd'hui Benzema, qui peut être considéré comme le top player, et vous allez regarder De Bruyne, qui bien évidemment peut bien faire de bonnes passes, mais nulle part vous n'allez le voir capable de dire qu'il peut rivaliser avec Benzema. Laissons Benzema. Benzema, s'il y avait le ballon d'or, il serait sur le podium d'or.
Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr parce qu'on entend beaucoup parler de Kevin De Bruyne, qui va sans doute être élu meilleur joueur du championnat d'Angleterre et qui pour
qui
beaucoup
va faire quoi
et qui devrait être élu joueur de l'année en Angleterre a priori cette saison.
Tu n'es pas au courant de celui qui a été élu?
Non, mais il y a deux.
Il y a deux prix remis par la presse.
Pour l'instant, c'est ça. C'est Anderson.
Mais qui prend en compte le joueur et
Anderson.
Et ensuite, le joueur qui est élu par ses propres adversaires et coéquipiers. Et ça, c'est le joueur qui compte un peu plus. Et De Bruyne est le favori. Mais aujourd'hui, pour beaucoup, De Bruyne surtout, il figure dans le top 3 des joueurs mondiaux avec Ronaldo et Messi. Pour beaucoup, c'est le troisième joueur derrière ces deux-là.
Pour vous?
Non, pour beaucoup de monde.
Pour moi.
Pour beaucoup de monde. Et pour le réfé aussi. Et le réfé qu'on double.
Ah oui, c'est pour le 35e. Pour moi, il est parmi les 30.
Manchester City, Real Madrid. Donc c'est ce soir à 19h en temps universel. Allez, maintenant, on passe à la petite sœur de la Ligue des Champions. Place à la Ligue Europa. Les huitièmes de finale de la Ligue Europa se sont terminés hier. Formule compliquée en raison de l'interruption de la saison. Certaines affiches se sont jouées sur match sec, celles dont le match aller n'avait pas pu avoir lieu. Et c'est le cas de Séville-Rome. Ça a bien tourné à l'avantage des Espagnols qui se sont imposés 2-0 hier et donc qualifiés pour les quarts de finale. Réfé, Séville poursuit son chemin vers un sixième titre en Ligue Europa.
Bah oui, depuis l'arrivée de Lopetegui, c'est vrai que Séville a retrouvé un fond de jeu. Ils sont sur une très belle série des matchs sans défaite. On se rappelle qu'ils avaient commencé à faire douter le Barça depuis la reprise de la Liga. C'est là que Barcelone avait commencé à perdre son titre. Et aujourd'hui, ils sont bien partis pour essayer de gagner un trophée qui leur tient beaucoup à cœur. Ils ont l'esprit serein, puisque enfin, tous les favoris sont déjà qualifiés pour la Ligue des Champions. Il y a Séville, mais il y a aussi United, Inter, etc. Donc ils peuvent jouer le cœur léger. Ils ne sont pas obligés de gagner pour se qualifier. Et là, ils ont un tirage intéressant. Ils vont jouer à Wolverhampton.
Très difficile.
Un tirage très difficile. Mais bon, ils ont leur chance et ils sont plutôt en bonne dynamique. Et il y a un Lucas Ocampos qui est en grande forme, qui a fait un grand numéro encore dans la victoire de Séville face à la Roma, qui réussit une très belle saison en Espagne. Et voilà, je pense que Séville est certainement un de mes favoris pour aller au bout.
C'est important l'impression, un de ses favoris. pour moi les favoris ça restera l'Inter et Manchester United.
Donc je le rappelle juste, donc l'Inter qui jouera contre le Bayer Leverkusen, qui s'est qualifié hier en battant les Glasgow Rangers.
Bonne équipe Bayer Leverkusen.
Ouais. Et Manu, ce sera contre Copenhague.
Oui, C'est un signe pour les Gunners Solskjaer face à Copenhague. Non, mais United, la Coupe d'Europe, même si c'est qu'entre guillemets la petite Coupe d'Europe, c'est très important. Mourinho l'avait gagné sur le banc de United et Solskjaer va tout faire pour la remporter. C'est tellement, tellement important. Il a besoin aussi d'un trophée. Il avait été éliminé de l'un des finales de la Cup par Chelsea cette saison. Certes, il se qualifie pour Ligue des Champions, ce qui était l'objectif prioritaire des dirigeants. Mais s'il peut ramener un trophée, son bilan sera
ça va asseoir sa légitimité.
Ah oui, complètement, complètement. Et puis surtout, voilà, ils sont dans une phase ascendante. Je trouve qu'ils ont trouvé un équilibre. On a un Pogba qu'on évoquait au Real depuis plusieurs mois et finalement, on est en train de se rendre compte qu'il va peut-être rester à United. United est en train de boucler le transfert de Jadon Sancho de Dortmund. C'est quand même extrêmement séduisant. C'est un United, un club de Manchester United.
Une attaque de dingue l'année prochaine.
Ah, il y aura une attaque extraordinaire. Et
Martial, il est au top de sa forme.
Et Martial au top de sa forme. Non, non, mais il se passe des choses à United. Ils sont en train de renaître un peu de leur sombre après un long passage à vide. Donc c'est bien. Et je pense que pour moi, ça peut être un des favoris avec un bon tirage comme ils l'ont eu là. Mais attention encore une fois à Wolverhampton, qui est certes entre guillemets un petit au niveau européen, mais qui en Angleterre est en train de faire sa place dans le top 6 anglais, qui a bousculé des équipes comme Tottenham, comme Arsenal. C'est un club qui a beaucoup d'ambition, beaucoup d'argent aussi. C'est parmi les clubs très riches d'Europe. Et un entraîneur, Nuno Espirito Santo, qui est excellent depuis qu'il est sur le banc des Wolves.
Elle vous enthousiasme un petit peu, cette Ligue Europa, Rémi ou...
Oui, parce qu'il y a de très bons... Bon, voilà. Il y a de très bons clubs et particulièrement, j'apprécie actuellement Manchester United parce que c'est une équipe qui joue quand même et qui a de très bons... une très bonne assise offensive. Et contrairement à... Bon, on peut me dire Séville ou Campos, oui, ils marchent, mais... Quand on essaie de regarder les autres effectifs, je donne pratiquement comme favori, pour moi, c'est Manchester United. Parce que cette équipe, déjà, quand on essaie comment est-ce qu'elle s'est terminée en fin de saison en première ligue et comment elle a arraché sa qualification, on se dit quand même que c'est l'une des équipes les plus en forme actuellement. Donc moi, je vois qu'avec cette équipe qui est presque actuellement complète sur chaque ligne, j'ai dit, elle peut aller très très loin, c'est-à-dire que vous prenez du gardien de but jusqu'à la ligne d'attaque, et comme on a dit Martial, quand même, ça marche très très fort. On se dit, cette équipe peut faire très mal à n'importe quelle équipe. Donc, pour moi, c'est Manchester United.
Réfé, vous voyez Séville plus fort que Manchester ?
Non, je ne dis pas qu'ils sont plus forts, mais c'est une équipe qui aime bien ce type de compétition, ce format, qui est en confiance, qui gagne, qui engrange les victoires. Après, cette phase finale à 8 qui va se disputer en Allemagne, comme celle de la Ligue des Champions, il y a beaucoup d'interrogations et peu de certitudes.
Mais c'est sur des matchs secs aussi.
Qui sera le plus en forme, qui aura le mieux géré cette phase post-Covid? Est-ce que les Espagnols qui ont eu 3 semaines d'arrêt avant de reprendre la compétition vont en profiter pour revenir plus en forme? C'est la même question qu'on se pose au sujet de Barcelone et Naples demain. C'est-à-dire, est-ce que cet arrêt et ces petites vacances ont fait du bien aux esprits ou est-ce que ça va plutôt handicaper les équipes qui vont en bénéficier? On ne sait pas du tout laquelle de ces équipes va finir le plus fort. Manchester United a joué son match précédent en Ligue Europa avec beaucoup de remplaçants, donc on a eu du mal à se faire une idée. Mais l'Inter a fini très fort son championnat. Il y a Inter Bayern Leverkusen, qui est l'équipe qui joue à domicile quand même, qui peut aussi créer la surprise. C'est difficile, mais je pense que Séville, en tout cas, réussit une très belle fin de saison et il ne faut pas l'écarter trop vite.
Et puis on parle des favoris des gros ou anciens gros d'Europe, comme Manchester United ou l'Inter, mais le fait que ce soit sur un match sec, ça peut aussi... sur un match, tout est possible, ça redevient de la Coupe plus que de l'Europa League ou Champions League, donc tout est possible. Et ça peut avantager des équipes dites un peu plus faibles, comme Séville, ou d'autres, parce qu'il peut aussi y avoir des surprises. Le Bayer Leverkusen peut très bien éliminer l'Inter sur un match, c'est totalement possible.
Allez, tout de suite, on passe au carton.
Carton jaune.
Un carton, là. Il sort un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Bruno Constant, à vous l'honneur, votre carton.
On devait l'évoquer dans l'émission, mais on l'avait pas évoqué. Et alors au départ, je voulais faire un carton vert à Alex Dupont. parti, disparu il y a une petite semaine, qui avait fait un travail extraordinaire, notamment avec Guignon, vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2000. Mais je voulais faire plutôt un carton rouge à Meunier pour ses déclarations hallucinante en conférence de presse de présentation de Dortmund, où il explique qu'en fait il a signé dès le mois de février avec le club de Dortmund, c'est-à-dire avant le huitième de finale aller du PSG face à Dortmund qu'il a disputé et dans lequel il a pris un carton jaune considère sa suspension pour le match retour, et en déclarant après le match qu'il n'était pas au courant qu'il serait suspendu s'il prenait un jaune. Donc quand on remet toutes les choses à l'endroit après ces déclarations, on se dit mais comment il peut faire ce genre de déclaration ?
Oui, quel est l'intérêt pour lui de raconter ça ?
Quel intérêt ? Et puis surtout, ça malheureusement, ça pose un peu des suspicions sur son attitude sur ce match aller. Est-ce qu'il n'a pas voulu devenir le héros du PSG, par exemple, au match retour, en marquant le but vainqueur face à son futur club ? Enfin, ça peut. Il y a plein d'hypothèses qui peuvent ressortir. C'est des déclarations totalement insensées de la part d'un joueur professionnel. Et je pour moi, c'est un carton rouge.
C'est quand même très douteux.
Ouais.
Et on peut s'interroger aussi sur l'attitude des dirigeants du PSG, parce qu'ils devaient forcément être au courant quand même qu'il avait signé avec Dortmund.
En tout cas, il devait être aussi au courant que s'il prenait un jaune, il serait suspendu, parce que dans tous les clubs, ils sont avertis par les dirigeants. Donc il y a beaucoup de choses sur ces déclarations, c'est assez douteux.
Oui. Réfé, le carton.
Alors, il y a pas mal de cartons qui sont proposés par nos amis sur Facebook Live. Donc, il y en a un que je vais dédier à Rémi, qui est de Fibland au Kangé, qui donne un carton vert à Ciro Immobilier, meilleur buteur de la Serie A. Et puis sinon, il y a Seydou Diallo qui donne un carton rouge à la même Serie A en pensant que Dybala est meilleur que Ronaldo et Immobilier. Donc voilà, tous les avis sont dans la nature et chez les auditeurs.
Rémi, votre carton.
Eh bien, le carton, c'est rouge, c'est l'original, hein, parce que là, ils fichent là. La page Facebook Remingo officiel, Jacques-Antoine Dupouen donne donc le carton rouge aux dirigeants du football camerounais. Rouge parce que nous avons eu un grand capitaine à la Coupe du Monde, Stephen Tatou.
Coupe du Monde de 90.
90 et même 94. Ce capitaine, Stephen Tatou, a été malade des mois, des années et des années. Jamais les autorités camerounaises ne se sont occupées de lui malgré ses multiples plaintes. Jamais les autorités camerounaises, dont particulièrement le ministre des Sports, qui prétend aujourd'hui n'avoir même pas été au courant, alors que ça passait dans tous les médias, que ce capitaine était malade. Mais le comble, c'est que quand il meurt, selon le chef d'État camerounais Paul Biya, dit « Je vais donner une maison, un logement social à chaque lion indomptable. » Soit dit en passant, en 1990, lorsque les lions indomptables rentrent, première équipe africaine à atteindre les quarts de finale, Paul Biya dit « Je vais offrir une grosse maison à chaque joueur. » Nous sommes 30 ans après, il continue à faire des promesses. C'est toujours comme ça, quand les lions indomptables gagnent, quand les lions indomptables font ceci, eh bien le chef d'État camerounais vient avec les ministres, ils se font applaudir, ils deviennent les premiers sportifs camerounais. Comme le dit un proverbe africain, le chien chasse, attrape le gibier et c'est le maître qui mange.
C'était le carton très rouge de Rémi Ngono. Le carton de l'équipe de Radio Foot cette semaine, il est vert et il est pour le VV Foire Route. Ce nom ne vous dit probablement pas grand-chose, moi non plus, bon, je fasse des petites recherches. C'est une équipe néerlandaise qui évolue en 4e classe, c'est l'équivalent du Régional 3 en France. Et son équipe première masculine s'apprête à accueillir un nouveau joueur, ou plutôt une nouvelle joueuse. Elle s'appelle Hélène Fokema, elle a 19 ans et elle vient d'être autorisée par la Fédé à évoluer avec cette équipe masculine dans un championnat régional. La mixité dans le foot, ce n'est donc pas impossible. C'est ainsi que se referme ce Café des Sports. Merci beaucoup à tous les trois. Merci aussi à Sarah Loubacouche et à Laurent Salerno, sans qui rien ne serait possible. Et j'ai une très bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Annick Guesnier revient aux commandes de Radio Foot dès lundi. Très bonne soirée sur RFI.